Et donc nous sommes toujours dans une émission de Sortir du capitalisme, d'analyse critique des idées de Francis Cousin. Nous sommes toujours avec Benoît d'Alternatives Libertaires et nous continuons la deuxième partie de notre émission, donc sur une critique de la pensée de Francis Cousin sur différents thèmes. Et donc maintenant on va s'attarder sur la question de l'antisémitisme en commençant par une citation, donc dans La société de l'indistinction, page 66.
Donc cette citation, elle montre en quoi la valorisation de Francis Cousin du christianisme primitif comme étant une pensée qui serait révolutionnaire, elle s'accompagne aussi d'une forme d'antisémitisme et d'islamophobie presque ontologique, donc qui va s'attacher à critiquer quasiment les textes eux-mêmes, judaïques et islamiques, et aussi donc du coup presque un éthos, une essence juive et une essence musulmane. Donc il dit dans la critique de la société de l'indistinction, page 66, il dit, je cite, « À l'opposé des métaphysiques d'allégeance qui fondent le judaïsme et l'islam, en réduisant l'homme au statut de craignant Dieu par le biais de contrats commerciaux et de pactes militaires passés avec un créateur dominateur, la doctrine primitive du christianisme abolit toutes les servitudes commerciales et les subordinations militaires pour appeler au soulèvement de l'être du cœur contre le fétichisme des rituels qui emprisonne le cœur de l'être. » Donc c'est toujours dans un style assez imbitable, mais on peut essayer de comprendre ce qu'il essaie de dire. De façon assez classique, il va critiquer finalement le littéralisme juif, donc c'est un thème antisémite chrétien assez classique, hein, qu'on rencontre déjà chez Kant, par exemple.
Et qu'on retrouve chez les Volkis, chez les nazis, en disant que finalement c'est une religion de la loi, de l'obéissance stupide.
Voilà, quand on oppose la lettre au cœur, donc la lettre qu'on dit juive au cœur chrétien, c'est typique de l'anti-judaïsme chrétien. Donc c'est un thème assez classique. Et lui connecte le judaïsme à l'islam. L'islam serait lui aussi littéraliste et aussi dans une forme de prescription de commandement qui ne serait pas émancipateur. Et ça peut servir aussi son idée que les sociétés, certaines sociétés africaines seraient par exemple sans histoire. Donc il fait d'une pierre deux coups ici, antisémitisme et islamophobie. Et finalement, sa valorisation du christianisme, ça va aussi lui permettre de valoriser cette Europe chrétienne qui aurait une identité révolutionnaire. Donc c'est bien pratique. Et là, en un paragraphe, il fait d'une pierre même trois coups, on pourrait dire. Mais ensuite, il faut peut-être rentrer plus dans le détail de son antisémitisme et de son islamophobie en réfléchissant aux conséquences sociales que ça peut avoir.
Oui, et juste là-dessus, dans une vidéo autour du Burkini, donc qui date d'il y a quelques années, il disait que l'islam était en fait une forme dérivée du judaïsme. Donc finalement, c'était une idée qu'on trouvait finalement chez Nietzsche, mais par rapport au christianisme, où il disait que finalement le christianisme était une forme dérivée du judaïsme. Et donc là, maintenant c'est l'islam qui devient une forme dérivée du judaïsme, ce qui est un peu une espèce d'intersectionnalité raciste. C'est une forme, disons, de convergence des luttes antisémites et islamophobes, puisque là, en fait, finalement, l'islam et le judaïsme, c'est une seule et même chose, que voilà, l'islam n'est qu'une forme dérivée du judaïsme.
Il faut savoir juste qu'on rencontre cette convergence aussi chez Renaud Camus. Dans les années 2000, Renaud Camus a commencé par dénoncer les médias qu'il qualifiait de juifs, donc dans une pensée paranoïaque antisémite. Et après, dans les années 2010, il parle du grand remplacement de façon islamophobe. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent à l'extrême droite. Et antisémitisme et islamophobie sont intrinsèquement liés. On va opposer à cela une identité française, chrétienne, qu'il faudrait préserver, etc. Donc ça peut servir aussi des formes de nationalisme.
Oui, après, disons qu'il va reprendre finalement une thématique assez classique dans l'idéologie Volkisch. Il va ajouter, disons, à cet anti-judaïsme radical, catholique et païen, un antisémitisme comme anticapitalisme tronqué. C'est-à-dire qu'il va dire que la question juive, c'est le livre le plus important de Marx et qu'il faut le lire avec le Capital. Et surtout que les juifs ne sont pas une race, ni une religion, mais que, en fait, les juifs sont une fonction sociale. C'est que, alors il le dit dans une vidéo assez incroyable, où il dit « Un moment dans l'histoire, c'est créer un peuple dont la spécificité était la valeur d'échange circulatoire. » Et donc il dit que, en fait, pour devenir marchand, il fallait se convertir au judaïsme, et pour en sortir, il fallait se convertir au christianisme. Donc bon, là, on nage un peu dans le délire complet. Il parle du judaïsme comme la religion du capital en mouvement, et il dit « Toute l'histoire du judaïsme est un appendice du capital », avec un grand C. Donc là, effectivement, finalement, Ce qui est assez amusant avec Francis Cousin, c'est qu'il va jusqu'au bout de l'idée d'anticapitalisme tronqué, qui est basée notamment sur la personnification du capital et du rapport capitaliste dans la figure du juif. Et là, finalement, il va dire non, mais il va même pas chercher à l'enrober avec des caractéristiques raciales ou culturelles ou religieuses, comme dans une grande partie de l'antisémitisme. Il va carrément dire non, mais les juifs, en fait, c'est l'argent, de manière la plus anticapitaliste tronquée possible.
Et pour dire ça, il s'appuie effectivement sur La question juive de Marx, qui est un livre où il y a effectivement des passages où il y a des préjugés antisémites, on peut le dire, où Marx explique que le judaïsme, sa religion profane, c'est l'argent. Donc effectivement, c'est un préjugé antisémite typique. Après, on ne peut pas dire que ce soit structurel dans l'œuvre de Marx, mais Cousin va considérer par contre que c'est structurel, que Marx a dit là, le jeune Marx a dit là quelque chose d'important, et qu'il va falloir à chaque fois qu'on lira Valeur d'échange, comprendre derrière le juif. Et donc du coup, voilà, il y a une façon d'extrapoler la question juive de Marx à toute l'œuvre de Marx pour avoir une lecture intégralement antisémite de Marx.
Qui est fausse, en fait. Une lecture qui est fausse.
Qui est fausse, puisque ce n'est pas du tout structurel chez Marx. Par contre, il faut bien sûr critiquer cet antisémitisme ponctuel du jeune Marx, qui fait vraiment problème. Mais en gros, voilà, ce qui est juif chez Francis Cousin, c'est la valeur d'échange. Et là, on est confronté typiquement à ce que Poston a décrit en termes d'antisémitisme structurel dans la modernité capitaliste, où il explique que voilà, les réactions nationalistes aux crises tendaient à assigner la valeur abstraite aux juifs. Et du coup, derrière, il y avait aussi une fétichisation du concret, c'est-à-dire qu'on opposait par exemple la mauvaise valeur abstraite qu'on qualifiait de juive au bon travail concret, au bon capital industriel national. Et donc, il y a une fétichisation du concret, une diabolisation de l'abstrait et une assignation des juifs à cette abstraction. Et bien, tout ça, c'est présent chez Francis Cousin. Déjà, l'assignation des juifs à la valeur d'échange, c'est bien sûr présent, et tu viens de le dire. Et ça, c'est typique de l'antisémitisme structurel que décrit Poston. Mais par ailleurs, il y a aussi une fétichisation délirante du concret en permanence, à travers, on en a déjà parlé, le jargon de l'authenticité, de la vraie vie, qui développe constamment. Donc du coup, on est tout simplement face, avec Francis Cousin, à l'antisémitisme structurel le plus classique, tel qu'il a été décrit par Poston. Et il faut bien entendu relire Poston pour comprendre à quel point Francis Cousin est effectivement antisémite. Et par ailleurs, cet antisémitisme-là, il est aussi lié à un patriarcat structurel, dans la mesure où la bonne concrétude de la vie pour cet anticapitalisme tronqué correspond à des rapports patriarcaux régulés dans la sphère de la reproduction privée. Et c'est pourquoi, dans le mouvement national-socialiste, il y a eu à la fois un masculinisme très fort et un antisémitisme du coup, qui a été génocidaire, bien évidemment. Et là-dessus, il y a un article intéressant de Johnny et Alisa Cohen qui s'appelle « L'éradication des abstractions talmudiques, l'antisémitisme, la transmisogynie et le projet nazi » sur Contretemps, qui est sorti il n'y a pas longtemps, où elle explique aussi le lien entre l'antisémitisme structurel dans le national-socialiste tel qu'il a été décrit par Poston et la transmisogynie, c'est-à-dire le meurtre aussi des transfemmes par les nazis. Et donc, elle explique que tout simplement, on va critiquer en même temps l'abstraction de la valeur en disant que c'est les juifs qui se cachent derrière, à travers aussi une fétichisation du concret. Mais on va dire aussi que d'une certaine manière, il y a les sexes différenciés qui sont le bon concret qu'il faut préserver, et il y a le genre déconstruit qui est l'abstraction qui menace justement ce concret. Et donc du coup, elle connecte comme ça l'antisémitisme radical des nazis à leur transmisogynie, et donc à une forme de patriarcat radical. Donc je pense que c'est un article aussi très intéressant pour comprendre aussi la cohérence d'ensemble du masculinisme, de l'antisémitisme, de ces idéologues.
Oui, peut-être rapidement, on a beaucoup utilisé ce concept de fétichisme, et d'ailleurs que Francis Cousin utilise lui-même, à mon avis, très mal, parce que finalement, ce que Marx entend par fétichisme, c'est notamment, alors évidemment, c'est pas que ça, mais c'est notamment l'idée que les êtres humains attribuent de manière artificielle, puisque fetichao en portugais, ça veut dire artefact. Donc les êtres humains attribuent de manière artificielle à quelque chose, une entité, un rapport social, une structure, etc., etc., une autonomie, une indépendance, une positivité, souvent, un caractère naturel, transhistorique, etc. Et c'est exactement ce que fait en fait Francis Cousin très fréquemment, donc il tombe dans un fétichisme identitaire, ou très, très régulièrement, donc il tombe dans un fétichisme identitaire par rapport à la classe ouvrière blanche masculine, mais aussi dans un fétichisme identitaire par rapport justement à tout ce qui est soi-disant concret. C'est-à-dire que, comme dans le national-socialisme, il y a une fétichisation de l'industrie, de la race allemande, qui sont considérées comme des entités qui ont toujours existé, qui sont positives, qui sont transhistoriques, etc., contre quelque chose qui serait, lui, artificiel, mauvais, comme la finance, la spéculation, le judaïsme, etc. Francis Cousin fait la même chose, non seulement à propos des Juifs, donc finalement, il tombe dans un anticapitalisme tronqué comme celui des nazis, malgré ses grandes proclamations qu'il faut abolir l'argent, le travail, etc. D'une certaine manière, il n'est pas cohérent là-dessus, il est dans une contradiction qu'on retrouve ici comme ailleurs, mais il l'applique également pas que aux Juifs, mais également aux personnes transgenres, et finalement, il retombe dans une forme de fétichisation de l'identité, donc de l'identité européenne, mais aussi de l'identité de genre, ce qui est évidemment assez encore une fois normatif. Et d'ailleurs, je voudrais citer un moment d'une vidéo de Francis Cousin qui montre à quel point est-ce que sa pensée n'est pas émancipatrice, puisqu'il le dit lui-même dans une vidéo. Il dit « Toute émancipation est une aliénation supérieure ». Donc l'émancipation, donc c'est forcément une aliénation supérieure. Donc là où on voit que finalement la pensée de Francis Cousin se démasque comme une pensée anti-émancipatrice et réactionnaire.
Anti-féministe, il le dit lui-même, il pense sûrement à ça. Mais même, tu parlais du fétichisme, effectivement, sa critique du fétichisme, elle est constante, mais elle n'est jamais vraiment précisée. Mais en fait, elle se base sur un dualisme finalement assez basique entre l'artificiel et le naturel. Et lui, justement, il ne va pas penser la naturalisation comme aussi un processus fétichiste, mais au contraire, il va opposer l'artificiel à la vraie vie continuellement. Donc l'artifice, ça peut être chez lui le juif, la personne transgenre, la femme qui serait masculinisée, qui aurait perdu son essence, par exemple, en travaillant. Toutes ces choses seraient artificielles et s'opposeraient à la vraie vie naturelle qu'il qualifie de cosmique ou de sacrale, etc., ou de primitive. Et cette dualité, on la retrouve sans arrêt chez lui. Et le problème, c'est qu'il va aussi s'appuyer sur le jeune Marx pour défendre ce naturalisme. Il y a effectivement un naturalisme chez le jeune Marx, dans les manuscrits de 44, où Marx parle aussi de l'essence générique, etc., qui peut poser problème. Par contre, dans le Marx du Capital, ce naturalisme-là a complètement disparu. Mais voilà, Francis Cousin, il va quand même s'appuyer sur des bribes de Marx, du jeune Marx, etc., pour défendre cette opposition binaire entre artifice et nature. Et ensuite, effectivement, il va le faire de façon antisémite, patriarcale, etc. Mais ce que ça nous montre aussi, peut-être, et ce qui est intéressant, c'est les écueils éventuels aussi de ce naturalisme, même du jeune Marx, qui reste aujourd'hui à repenser, etc., parce que c'est la porte ouverte pour ces idéologues confus à ce genre de naturalisation patriarcale, antisémite, etc.
Oui, c'est clair. En fait, finalement, Marx est naturaliste et ça pose un certain nombre de problèmes. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le jeune Marx. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que le naturalisme du jeune Marx, même s'il est problématique, malgré tout, il ne désigne pas vraiment de sujet concret. Alors que chez Francis Cousin, finalement, il y a déjà une normativité de ce naturalisme. C'est-à-dire que finalement, Marx reste encore dans une espèce d'être générique abstrait, alors que pour Cousin, l'être générique, il est très concret. C'est l'homme blanc hétérosexuel moderne. Donc ça, c'est quand même une première différence. Et puis après, la deuxième différence, c'est qu'évidemment, cette thématique, tout comme finalement l'anticapitalisme tronqué lié à l'antisémitisme structurel, ça disparaît chez Marx de la maturité dans le Capital.
Et ensuite, juste pour ajouter quelque chose sur son antisémitisme, il y a un complexe que Francis Cousin postule, qu'il appelle le judéo-protestantisme. C'est-à-dire que Francis Cousin, il défend le christianisme primitif, mais il suppose aussi que le protestantisme, donc avec son éthique du travail, etc., serait l'avènement de l'esprit du capitalisme. Mais il connecte le protestantisme au judaïsme, du coup, pour imaginer une sorte de conspiration judéo-protestantisme contre cet élan soi-disant émancipateur qu'il postule, d'une forme de christianisme primitif. Du coup, voilà, ça c'est un thème aussi qu'on rencontre chez Soral. Soral, il parle souvent du judéo-protestantisme. Et son antisémitisme, c'est aussi un anti-protestantisme. Il va peut-être supposer que le protestantisme, ce sera la réaffirmation dans le christianisme d'un esprit juif. Donc c'est complètement paranoïaque et essentialisant comme démarche.
Oui, bien sûr, ça c'est clair que là on retrouve finalement le vieux fond réactionnaire catholique du 19e siècle, qu'il y ait les protestants, les francs-maçons, les juifs, les athées, les socialistes, dans une espèce de vaste conspiration pour détruire l'Europe chrétienne et catholique.
Surtout que ça ne prend pas en compte le fait que Luther était un grand antisémite déjà et avait lui-même le premier imaginé faire porter des signes distinctifs aux Juifs, à brûler les synagogues, etc., après avoir échoué à convertir les Juifs. Donc du coup, ça aussi c'est une contradiction que ne prend pas en compte Francis Cousin, qui d'ailleurs se désintéresse des faits historiques très souvent et a plus des idées comme ça structurelles, abstraites.
Oui, on voit ça notamment lorsqu'il fait finalement du christianisme catholique, notamment une espèce de religion européenne, et qu'il délire un petit peu à propos de la destruction des marchands du temple. Donc là, c'est une citation dans les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, donc page 61.
Et donc là, c'est une partie du Nouveau Testament qui a beaucoup été récupérée par l'antijudaïsme chrétien. Donc je cite Francis Cousin: Ce moment de radicalité verticale contre le temple de la marchandise fait mémoire de ce temps intensément contradictoire où Jésus de Nazareth fut acclamé comme un éveilleur par les habitants de Jérusalem, qui le saluaient avec les palmes du refleurissement avant d'être condamné à mort comme un malfaiteur. Les rameaux de feuillage vert dans le cycle du cosmos toujours renaissant nous rappelle ainsi que la vraie vie ne finit jamais malgré l'oppression horizontaliste de l'économie, de la politique et de la religion, et en dépit de toutes les inversions domesticatoires, du défiguré et du contrefaire. C'est bon, assez pénible à lire, mais l'idée c'est qu'effectivement il va très bien connecter l'antijudaïsme chrétien traditionnel à un antisémitisme structurel moderne tel qu'il a été défini par Poston, et il les pense ensemble pour avoir un antisémitisme le plus complet possible. Et il va utiliser justement ce qu'il appelle le christianisme primitif pour penser quelque chose qui résisterait à cet esprit de l'économie qui serait intrinsèquement juif, quoi. Donc c'est voilà des thèmes antisémites et anti-judaïques assez classiques. Mais on voit que voilà, il y a quand même une cohérence d'ensemble. C'est vraiment son projet d'établir un anticapitalisme qui ne serait pas du tout incompatible avec un nationalisme français, avec une pensée catholique, etc., etc.
Oui, et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans sa pensée conspirationniste, donc qui est à la fois nationaliste et antisémite, puisque voilà, il parle beaucoup de complot américano-sioniste à propos d'un certain nombre d'événements historiques sur lesquels on ne va pas revenir. Moi, je voudrais simplement revenir sur sa lecture de la Révolution française qui est hilarante, donc qui développe dans une vidéo justement sur la question du complotisme, où il va dire, quand même, bon, ce qui est assez fort de café, que finalement, que la Révolution française est un complot de philosophes, de bourgeois et de francs-maçons, donc c'est la version traditionnelle du conspirationnisme catholique, donc qui est développé pour la première fois par l'abbé Baruel, qui est un peu le fondateur du complotisme moderne. Mais il va dire en même temps que ce complotisme n'est qu'un saut qualitatif nécessaire au développement du capitalisme et des forces productives. Donc d'une certaine manière, 1789 serait un complot, mais qui serait déterminé par le développement des forces productives et qui permettrait un saut qualitatif nécessaire à un développement poursuivi du capitalisme et des forces productives. Donc on est dans une espèce de mélange du conspirationnisme catholique de l'abbé Baruel, donc avec cette connotation antisémite, anti-franc-maçon, anti-protestant, et en même temps dans une espèce d'hégéliano-marxisme complètement délirant qu'on retrouve dans un certain nombre de ses écrits. Et c'est là où on voit finalement que Francis Cousin allie à la fois une personnification extrême, donc ce qui lui permet de développer une pensée extrêmement raciste, antisémite, anti-maçonne, etc., et en même temps s'exprime de manière extrêmement abstraite à la manière de l'hégéliano-marxisme sur le développement des forces productives qui, on dirait, se développent toutes seules en dehors de toute histoire et de tout rapport social.
Mais ça, c'est une des plus grandes contradictions de son discours, c'est que justement, il parle sans arrêt de fétichisme de la marchandise et que d'un autre côté, il va personnifier abusivement les rapports de domination en supposant des complots en permanence. Or, la notion de fétichisme chez Marx, elle va vraiment dans le sens de la critique d'une domination impersonnelle, où justement, on ne parle plus de personnification de la domination. De la valeur parle justement de valeur comme étant un sujet automate, et comme développant voilà, cette domination impersonnelle, et les individus seraient des masques de caractère qui, en obéissant à ces lois de la valeur, finalement, seraient les objets de cette valeur. Et donc du coup, ça interdit la personnification abusive a priori. Et c'est la grande contradiction chez Francis Cousin, c'est voilà, cette notion de fétichisme qui devrait impliquer la critique d'une domination impersonnelle, elle coexiste en fait chez lui avec une personnification constante et complètement conspirationniste des rapports de domination. Et ça, au niveau épistémologique, c'est tout simplement aberrant et absolument pas rigoureux.
Oui, oui, c'est sûr. Et par ailleurs, pour arriver sur une des dernières thématiques qui est quand même centrale dans le discours de Francis Cousin, dont on a déjà un petit peu parlé, c'est finalement sa défense du patriarcat, d'un patriarcat autoritaire, homophobe, misogyne, transphobe, différentialiste, avec une vision très normative de l'identité de genre, de la sexualité, etc., etc. Et alors là, on peut peut-être voilà, lire quelques citations pour illustrer ça. Alors d'abord, de manière générale, il y a la page 217 des commentaires.
Oui, donc dans la page 217, il va citer Marx en fait pour appuyer tout simplement une pensée familialiste en fait. Donc Marx qui dit en 1847, les enfants sont là transformés en simples articles de commerce. Et Engels en 1884, le facteur déterminant en dernier ressort dans l'histoire, c'est la production et la reproduction de la vie immédiate.
Bon, une phrase d'ailleurs qui est interprétable de manière très diverse cette dernière, puisque c'est aussi la base du féminisme marxiste. Donc en fait, Francis Cousin essaye de la tirer dans le sens qu'il veut. Et c'est d'autant plus paradoxal que, je veux dire, il y a quand même une critique de la famille chez Engels dans son grand livre qui pose plein de problèmes d'ailleurs, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, où il appelle quand même à une destruction de la famille. Alors que Francis Cousin, là-dessus, est plus ambigu. En même temps, il prône une sexualité libérée et en même temps, il fait l'apologie de la famille. Donc il est vraiment dans un discours extrêmement contradictoire là-dessus.
Mais il critique la famille capitaliste. Il y a une série de tensions chez Francis Cousin, où il va dire par exemple que la sorcellerie et les chasses aux sorcières, c'est pour lui un désastre justement, mais au nom de son traditionnalisme. Après il va encore essentialiser le féminin à ce moment-là, mais il y a ces passages-là chez Francis Cousin. Mais ça ne va pas l'empêcher pour autant de supposer justement une essence féminine et une essence masculine, qui serait justement transhistorique, etc. Et donc, du coup, de penser que, par exemple, la déconstruction du genre appartiendrait voilà, à une forme de dénaturation de l'humain, quoi. Et c'est là-dessus qu'il va s'appuyer aussi sur ce naturalisme du jeune Marx pour développer une pensée masculiniste et avec, voilà, très binaire, quoi.
Alors que finalement, on pourrait lui rétorquer avec Gail Rubin que les identités binaires de genre constituent aussi une forme de dénaturation, puisque, comme elle dit, elles effacent les similarités entre les femmes et les hommes. Donc d'une certaine manière, cette pensée différentialiste qui exacerbe les différences entre femmes et hommes est également une forme de dénaturation. Donc en fait,
Et peut-être qu'il faut faire très attention déjà au terme de dénaturation et ne pas l'employer positivement.
Oui, oui, c'est une notion qui finalement ne veut pas dire grand-chose, puisque la nature elle-même... même si bon, elle existe évidemment indépendamment de nous, mais elle est aussi beaucoup le produit de discours. Ce qui fait que dès le jour de notre naissance, chacun va être assigné à un genre, va censé avoir telle caractéristique psychologique, telle caractéristique physique, etc., etc. Donc on voit qu'il y a vraiment une production sociale de cette différence qui est tout sauf naturelle.
Mais je pense que pour mieux comprendre le masculinisme, l'homophobie, la transphobie de Francis Cousin, faut se référer à nouveau à l'article de Johnny Alisa Cohen sur justement cette transmisogynie du national-socialisme, c'est-à-dire elle est propre à un anticaliste tronqué et à une fétichisation du concret. Et c'est vraiment ça qu'on rencontre aussi chez Francis Cousin, cette fétichisation du concret. Donc des sexes naturalisés, différenciés, binaires, etc., ça ce serait le concret. Et l'abstraction qui est associée à l'abstraction marchande, c'est la déconstruction des genres, c'est aussi l'homosexualité, les personnes transgenres et les femmes qui se masculiniseraient en travaillant et les hommes qui se féminiseraient en restant à la maison, par exemple. Donc tout ça, c'est pour lui l'abstraction, c'est pour lui l'indistinction, c'est pour lui la sphère marchande. Et derrière, il y a cette fétichisation aussi du concret, voilà. Et je pense que on peut appliquer, comme le fait Johnny Aliza Cohen, la logique que décrit Poston sur l'antisémitisme structurel a aussi la transmisogynie et même plus largement le masculinisme de Francis Cousin. On a une diabolisation de l'abstrait, une fétichisation du concret, cet anticapitalisme tronqué, et derrière, voilà, l'idéologie de Francis Cousin.
Et d'ailleurs, on en trouve une illustration encore dans La société de l'indistinction, page 22, où il concentre un petit peu toute sa pensée voilà, sur les questions de genre.
Donc il dit, page 22, je cite, à mi-chemin d'une hétérosexualité toujours plus dévalorisée et d'une homosexualité toujours plus louangée, le spectacle de l'indistinction a balisé sa norme de mixité indifférenciante en une représentation schizophrénique où la femme doit de plus en plus sembler être un homme pendant que l'homme doit lui de plus en plus ressembler à une femme. Schulin Just, qui parle souvent de schizophrénie ou d'autisme, donc il y a aussi un validisme structurel chez Francis Cousin, mais on n'a peut-être pas le temps de revenir là-dessus. Mais en tout cas, il pense beaucoup la perversion, il pense beaucoup. Donc il est très normatif justement et il est aussi dans la valorisation d'un homme valide et sain. Et il va qualifier la marchandise justement très souvent par des noms de pathologie mentale, donc il y a un validisme structurel et qui est lié à cette pensée de la dégénérescence, de la perversion extrêmement finalement puritaine et normative. Mais
L'apologie de la norme, vraiment,
voilà,
chez
c'est
Francis
ça, ouais.
Cousin.
Et surtout la norme hétérosexuelle, pour lui, elle serait menacée. Par exemple, par le mariage gay, etc. Là aussi, on a vraiment une pensée identitaire et essentialiste qui va donc penser, par exemple, les mouvements d'émancipation sexuelle, comme aussi des logiques qui s'inscrivent totalement dans le libéralisme. Donc, il n'est pas loin non plus d'un Kluskar qui pense le libéral libertaire des années 68, etc. Même si, par ailleurs, Francis Cousin, apparemment, s'est embrouillé avec Kluskar et ils ne sont pas du tout amis. Mais en tout cas, on retrouve quand même ça.
Mais probablement pas sur ces questions, peut-être plus
Sur ces
parce
questions, on
que c'était un
retrouve,
stalinien en
voilà,
fait.
et c'est aussi des choses qui sont présentes de façon peut-être moins choquante chez Michéa, mais en tout cas qui sont présentes aussi. Donc du coup, voilà, là c'est exprimé de façon très choquante, cette idée que l'hétérosexualité serait toujours plus dévalorisée parce que la marchandisation, etc., menacerait les rapports de genre naturels, c'est une pensée vraiment typiquement homophobe, et qui relève aussi voilà, cette association à une nature des genres, à une nature des sexualités, elle est finalement très moderne et très capitaliste, parce qu'elle est fonctionnelle dans le capitalisme, qui a besoin voilà, d'une sphère de la reproduction et d'une sphère de la production qui sont relativement séparées. Et donc du coup, une fois encore, Francis Cousin il va naturaliser des éléments du capitalisme sans s'en rendre compte, tout en se disant anticapitaliste. Donc là, on voit une nouvelle fois à quel point il est contradictoire.
Oui, bien sûr. Et effectivement, cette naturalisation, elle est aussi le produit de toute la pensée du XVIIIe et du XIXe siècle qui arrive avec l'émergence du capitalisme. Alors simplement, ce qu'on peut aussi rajouter, c'est qu'il a un discours sur l'homosexualité qui est extrêmement contradictoire et contrefactuel. Donc par exemple, il dit que l'homosexualité est une catégorie surreprésentée. Alors on ne sait pas où, parce que dans les médias, elle est sous-représentée. Dans la société, elle est sous-représentée parce que beaucoup de gens ont peur justement d'assumer leur homosexualité. On est plutôt dans une société en réalité hétéronormative. Dans tous les films, quasiment, on ne voit que des couples hétérosexuels. La normalité est considérée comme le couple hétérosexuel. Donc bon, après, soi-disant, l'être homosexuel serait le meilleur moyen de se faire embaucher, alors qu'on sait par des études statistiques qu'en réalité, les homosexuels sont discriminés à l'emploi et au logement.
Et oui, d'ailleurs, là-dessus, il y a Sophie Noyer, dans son article sur Contretemps pour un féminisme matérialiste queer, qui pense justement de façon très rigoureuse à la question en pensant des rapports sociaux de sexe. Et elle parle justement même des inégalités économiques. Les personnes homosexuelles, en moyenne, ont un salaire de 6% moins élevé. Donc du coup, ça aussi, c'est des faits réels que Francis Cousin se garde bien de thématiser, mais parce que sa pensée, justement, ne s'embarrasse pas des faits.
Oui, et d'ailleurs, Francis Cousin oppose le rapport homosexuel qu'il qualifie de rapport à un alter ego au rapport hétérosexuel qui serait un rapport à une altérité. Alors, ça va de pair avec sa vision différentialiste selon laquelle tous les hommes c'est la même chose et toutes les femmes c'est la même chose, mais par contre les hommes et les femmes ça n'a rien à voir. Encore une fois, on retrouve dans une vision binaire, différentialiste, qui là, en fait, sert un argumentaire complètement homophobe. Et justement, il ramène l'homosexualité à une pathologie narcissique, bon, soi-disant, parce que, finalement, l'amour homosexuel serait un amour de soi, alors que l'amour hétérosexuel serait un amour de l'autre, bon, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que le concept même de narcissisme pose problème.
Oui, et d'ailleurs, on retrouve presque ces formulations dans la théorie sexuelle de Freud. Alors certes, Francis Cousin rejette la psychanalyse, mais ici, il est assez héritier de cette psychanalyse freudienne, qui voilà, a des tendances non seulement homophobes, mais aussi parfois sexistes, différentialistes. Effectivement, cet argument que l'homosexuel ne sait pas se confronter à l'altérité ferait que justement, il serait dans une forme de perversion narcissique. Et c'est un argument homophobe assez classique. Il faut savoir qu'on rencontre aussi cet argument chez des gens comme Baudrillard. Baudrillard a dit des choses extrêmement choquantes à ce niveau-là, en allant jusqu'à dire que, par exemple, je crois que c'est dans Écran Total, il dit ça, que comme les homosexuels n'arrivaient pas à se confronter à l'altérité, ils auraient sécrété en eux cette altérité du virus qu'est le sida. Donc c'est quelque chose d'absolument atroce qu'on lit chez Baudrillard et qui est connu maintenant. Et voilà, on est dans ce type d'argumentaire totalement homophobe, et on le voit avec Baudrillard qui peut être carrément violent, quoi, extrêmement violent. Donc voilà, il y a des filiations qui existent. Il faut évidemment rappeler que cette idéologie différentialiste des genres et cette homophobie, elle est aussi propre à une modernité capitaliste qui tend aussi à être naturalisante, à essentialiser cette binarité, aussi pour les raisons fonctionnelles qu'on a identifiées tout à l'heure, qui sont liées à la nécessité d'une sphère de la reproduction donc féminine qui serait séparée de la sphère de la production. Et donc du coup, chez Francis Cousin, on a aussi cette rétroprojection du patriarcat capitaliste aussi sur les sociétés primitives qu'il va fantasmer, en imaginant justement que les femmes ont des fonctions sociales très précises liées justement à ce qu'il appelle le panier, là où les hommes auraient d'autres fonctions liées à la chasse par exemple. Donc c'est, voilà, c'est encore une fois une organisation cohérente mais qui tend une nouvelle fois à naturaliser des éléments en fait du capitalisme barbarisé.
Oui, d'ailleurs, sa critique finalement du lobby LGBT soi-disant est complètement incohérente. Alors d'abord, il va louer l'hétérosexualité comme une communauté radicale des subversions sociales, alors que l'hétérosexualité est une norme et que la majorité de la population en fait partie. Donc c'est un peu ridicule d'y voir une subversion sociale quand justement c'est une norme sociale. Ensuite, il va dire oui, mais l'homosexualité, c'est pas subversif, mais on voit pas en quoi est-ce que l'hétérosexualité l'est.
Ah, si, on peut comprendre dans son langage pourquoi il dit ça. Pour lui, le fétichisme de la marchandise crée des individus narcissiques. Donc, si l'homosexualité est narcissique, alors l'homosexualité va dans le sens de ce narcissisme marchand et de cette indistinction dont il parle. Donc, dans son idéologie, c'est cohérent. Mais effectivement, c'est totalement contradictoire si on considère justement le fait qu'en fait cette binarité, ce différentiel qu'il met en avant, n'est absolument pas contraire à la dynamique capitaliste.
Oui, là on voit une énorme contradiction, puisqu'il dit que l'homosexualité ferait vendre, constituerait un marché, mais en fait le plus gros marché, c'est bien le marché de l'hétérosexualité. Je veux dire, il suffit de voir, et de la minorité de genre, il suffit de voir le pognon que se font les entreprises en produisant des lignes de jouets différentes pour les hommes et les femmes, enfin pour les filles et les garçons, alors que s'il y avait des jouets unisexes, évidemment, ça diviserait tous les profits par deux. Dans l'industrie culturelle et le spectacle qu'il est si prompt à dénoncer, c'est massivement l'hétérosexualité qui est vendue au travers des sites de rencontres qui sont massivement hétérosexuels, au travers également de tout un tas de marchandises de l'industrie culturelle, qui sont des marchandises hétérosexuelles.
Après, malgré tout, même chez une penseuse matérialiste queer comme Sophie Noyer, c'est vrai qu'il y a une critique du pink market qui va récupérer les identités homosexuelles à des fins marchandes. Mais elle dit aussi que c'est surtout une nouvelle forme d'essentialisation qui, en fait, n'est pas du tout émancipatrice. Elle en parle, mais pas du tout à la façon de Francis Cousin, bien évidemment. Et surtout, elle dit qu'on met surtout en avant des formes essentialisées dans cette sphère marchande de l'homosexualité, donc du coup qui fait aussi violence aux personnes homosexuelles. la perspective de Sophie Noyer, elle est aux antipodes forcément de Francis Cousin. Mais Francis Cousin, il va voir par exemple cette émergence du pink market comme quelque chose qui serait structurel dans la société et qui montrerait à quel point la société marchande serait homonormée ou des choses aberrantes comme ça, quoi.
Oui, alors c'est complètement faux, puisque en réalité, disons, les marchandises destinées à la communauté LGBT, c'est un ghetto marchand, en fait. C'est un ghetto du capitalisme, c'est un secteur, une niche, alors qu'au contraire, l'hétérosexualité, elle, est dans l'ensemble du capitalisme promue comme un modèle. Regardez toutes les pubs pour n'importe quoi, pour acheter des vêtements, pour Décathlon, etc., etc. C'est toujours la norme hétérosexuelle qui est promue pour vendre des marchandises. Les pubs de voitures, on met en scène un couple avec un petit garçon et une petite fille, un homme, une femme. Enfin, on va dire que si on regarde l'univers publicitaire, ça ressemble quand même furieusement à la Manif pour tous.
Oui, d'ailleurs, c'est tout simplement Francis Cousin, quelqu'un qui s'inscrit totalement dans la dynamique de la Manif pour tous, dans ce que la droite appelle la nécessaire critique de la théorie du genre. Donc, c'est quelque chose d'assez classique à l'extrême droite. Et lui, il fait que récupérer ça en essayant de le rendre conforme à son anticapitalisme supposé.
Et justement, pour illustrer un peu tous ces points, on va citer deux derniers extraits donc de Lettres contre l'avoir, donc pages 149 et 150.
Oui, donc là, on est plus chez Francis Cousin dans l'affirmation positive d'une émancipation sexuelle après le capitalisme, qui rejoindrait en fait cette forme d'unité primordiale qui aurait existé dans les sociétés primitives et qu'il appelle sacrale, qu'il appelle cosmique, etc. Donc il dit « Dans la communauté de l'être, je cite, Eros vivait naturellement dans le spontané mouvement d'un jouir cosmique anti-mercantile. La société de l'avoir s'est progressivement mise en situation de l'agripper et de le dresser dans la capitulation et le désistement pour mieux ensuite le relâcher aujourd'hui dans la perfide et trompeuse libération des mœurs qui n'est rien d'autre qu'une colonisation morbide et délétère du sexe sacral par la marchandise qui transmute chaque pulsion de cœur en immondices négociés. » Donc pareil, là en fait, il parle des mouvements de libération sexuelle dans les années 70 et il en fait finalement la traduction d'une logique libérale, de justement déconstruction du genre, de perte des repères traditionnels. Et c'est une façon assez classique aussi, comme Kruskar l'a déjà fait, on l'a dit, de confondre aussi les dynamiques libertaires avec la dynamique libérale. Et ça, on le sait, c'est quelque chose de profondément réactionnaire.
Oui, par rapport à ça, soi-disant, il se réclame d'une espèce de liberté sexuelle sacrale, dont en réalité, on sait qu'elle est étroitement hétérosexuelle et fondée sur la domination masculine. Hein, évidemment, il s'agit avant tout de la libération sexuelle des hommes, comme dans son imaginaire un petit peu de la société germanique, une société de domination masculine, où les femmes sont du côté de la passivité, les hommes du côté de l'activité, les hommes du côté de la domination, les femmes du côté de la soumission. Évidemment qu'en creux, c'est ce modèle-là de soi-disant liberté sexuelle qui est en creux. Et donc, d'une certaine manière, en fait, Francis Cousin est contre la liberté sexuelle pour une norme sexuelle, un carcan sexuel très fermé et très rigide.
Oui, là, il parle du point de vue de la sexualité du sujet masculin hétérosexuel. Et pour lui, ce qui va être justement ce qu'il appelle le désistement, la capitulation, l'immondice négocié, c'est ce qu'il appelle la perversion homosexuelle ou l'aberration transgenre. Donc c'est quelque chose de profondément homophobe et transphobe. Ce qu'il faudrait montrer, bien évidemment, c'est que ces dynamiques d'émancipation, donc effectivement l'émancipation homosexuelle et féministe, ne s'inscrivent absolument pas dans la dynamique libérale, mais au contraire, ont pu être fondamentalement anticapitalistes à un moment donné.
Oui, et en plus, ce qu'il faut bien remarquer, c'est que les mouvements féministes et les mouvements homosexuels sont anticapitalistes. En France, le Front homosexuel d'action révolutionnaire était marxiste révolutionnaire. Le MLF était composé à majorité de féministes marxistes. Donc, avec des groupes en plus radicaux qui étaient anarchistes ou situationnistes également dans le phare, et que c'est une période qui précède le néolibéralisme. Le néolibéralisme n'arrive que dans les années 1980 comme un mouvement contre-révolutionnaire, alors que les années 70 sont plutôt un mouvement révolutionnaire. Et d'ailleurs, on voit, et ça c'est intéressant, que avec la révolution néolibérale, on assiste non pas au triomphe du féminisme et de la cause LGBT, mais au contraire à un backlash. Au cours des années 1980, l'élection de Ronald Reagan, qui est anti-avortement, anti-féministe, anti-LGBT, Margaret Thatcher, disons les mouvements de libération des femmes et des homosexuels, ne coïncident pas du tout avec la vague néolibérale, mais au contraire, la vague néolibérale va mettre fin au mouvement d'émancipation des femmes et des homosexuels, et c'est uniquement dans les années 2010 que ces mouvements vont renaître avec l'essor justement nouveau de l'anticapitalisme. Donc on voit bien que en réalité, la vague, disons, des mouvements de libération des femmes et des mouvements de libération homosexuelle, eh bien, va avec les cycles de l'anticapitalisme, même si évidemment, il y a une forme de récupération, mais je veux dire, dans ce cas-là, l'hétérosexualité n'a même pas eu besoin d'être récupérée, ni le masculinisme, puisqu'ils en sont des formes fondamentales du capitalisme.
Oui, d'ailleurs, ce qui va invalider complètement les thèses de Francis Cousin, mais aussi celles de Michéa, par exemple, ou de Klaus Kahr sur l'idée qu'il y aurait un libéral libertaire ou que le libéralisme il s'accompagnerait de dynamiques féministes, etc. C'est des formes très autoritaires et finalement très patriarcales de néolibéralisme. Aujourd'hui, on voit ça avec Bolsonaro. Et quelqu'un comme Michéa est incapable de penser, par exemple, Bolsonaro. Parce que ça contredit totalement la logique qu'il essaye de mettre en avant. C'est exactement le contraire de ce qu'il dit.
Et Trump également.
Et Trump aussi. Et donc du coup, là on est aussi dans un contresens qu'il faut déconstruire absolument, d'autant plus qu'il va être relayé par des personnalités peut-être moins dangereuses, mais aussi pernicieuses comme Michéa, quoi.
Oui, avec cette fausse idée du libéral libertaire, que le libéralisme économique irait de pair avec le libéralisme sexuel.
Surtout qu'il ne faut pas parler de libéralisme sexuel, du coup.
Exactement.
C'est pas un libéralisme.
Non, c'est une libération.
C'est ce que Michéa appelle le fait que le libéralisme économique et le libéralisme culturel se tiendraient la main dans la main.
Or, en réalité, comme ces mouvements justement homosexuels et féministes étaient anticapitalistes, précisément, ils ne voulaient pas s'inscrire dans le cadre de la sphère marchande, qui est le cadre de référence du libéralisme.
Et donc, une deuxième citation dans L'être contre l'avoir. Là, sur l'idée vraiment que pour Francis Cousin, il y a de la perversion au niveau sexuel dans la société marchande. Et donc là, c'est encore des thèmes homophobes, transphobes, etc., masculinistes. Et il dit, le concept du pervertir, je cite, est historiquement issu de deux termes latins, per qui signifie part et vertere qui exprime l'action de tourner. La traduction la plus littérale serait celle de mettre sans dessus-dessous ou de détourner de sa fonction initiale. Dans son sens le plus signifiant, ce concept désigne finalement toute pratique de falsification et par extension tout ce qui, obliquement et tortueusement, génère du corrompre en détournant du réel et inversant la réalité de fond en comble. Donc là, il parle vraiment de fonction initiale, donc il y aurait une fonction du masculin et du féminin. Donc là, il s'appuie, on le sait, sur son fantasme des sociétés de chasseurs-cueilleurs, où la femme serait au panier et l'homme serait à la chasse. Donc vraiment, une binarité des genres qui est affirmée ontologiquement, ça on l'a déjà assez dit. Mais surtout, tout serait sans dessus-dessous, donc il y aurait une norme qui serait menacée, qui serait corrompue, etc.
En plus, ça veut dire aussi qu'il assigne finalement à la sexualité, même hétérosexuelle, un rôle d'abord reproductif. On a quasiment le discours de l'Église là-dessus, hein, qui fait que, en fait, ce serait une perversion, justement, d'avoir des relations sexuelles pour des raisons qui ne sont pas liées à la reproduction humaine.
Oui, bien sûr, il y a aussi ce thème-là homophobe assez classique qui assigne les personnes homosexuelles, par exemple, à la stérilité. Et le terme de fonction initiale, il est proche de ça. Il faut savoir que c'était aussi le discours national-socialiste qui a justifié le meurtre de personnes homosexuelles. Donc il ne faut quand même pas oublier aussi l'extrême violence de cette idéologie. Et par ailleurs, peut-être une contradiction à cibler, il associe la perversion au détournement, en oubliant peut-être que justement Debord, dont il se réclame, a beaucoup pratiqué ces détournements. Et que Debord, quand même, était vraiment pour le détournement de ces normes que lui met tellement en avant.
Ouais, bien sûr. Et après, je voudrais revenir sur un dernier point avant de clore cette émission. Je pense que ça va de pair avec toute son idéologie, c'est qu'il est certes dans un cadre de pensée marxiste sur la lutte de classe, mais on voit bien qu'il a quand même une définition du prolétariat assez limitée. Donc, dans une de ses vidéos, il dit « Est prolétaire tout homme, salarialement confisqué par ce processus d'aliénation et de domestication, c'est aujourd'hui la quasi-totalité de la population mondiale, puisque entre le prolétariat et les capitalistes, les couches moyennes résiduelles des antériorités sont elles-mêmes en mouvement de dissolution. Et ensuite, il dit, la classe capitaliste n'est donc pas la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie a été annihilée par la modernité du capital. Donc en fait, d'une certaine manière, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, il n'y a que deux classes dans le capitalisme, les 1% d'un côté et les 99% de l'autre, qui est pourtant un discours typique de l'anticapitalisme tronqué, et il ne pense pas du tout le fait qu'il y a une classe intermédiaire dans le capitalisme, auquel on a déjà consacré d'autres émissions, une classe d'encadrement qui se charge, disons, d'encadrer le prolétariat, que ce soit dans la fonction publique ou surtout dans les entreprises, avec les contremaîtres, les cadres, etc., etc., qui ne sont pas dans la même classe que le prolétariat, puisqu'ils bénéficient dans leur salaire d'une partie du produit de l'exploitation des prolétaires. Et d'autre part, il défend le petit patronat, en fait, quelque chose de typique de l'extrême droite. Il défend le petit patronat et les classes moyennes indépendantes, puisque quand il dit la classe capitaliste n'est pas la bourgeoisie, puisque la bourgeoisie a été annihilée par la modernité du capital, d'une certaine manière, il y aurait une bonne bourgeoisie qui aurait été progressivement détruite par la modernisation du capital. Et finalement, il ne s'attaque qu'à la classe capitaliste mondiale salariée dans le salariat formel de la rémunération. Bon, quelque chose qui ne veut absolument rien dire d'ailleurs. Mais en gros, pour lui, la seule catégorie qu'il s'agit de critiquer, en fait, au final, ce sont les PDG. C'est-à-dire que les propriétaires des moyens de production, les actionnaires, les petits patrons, etc., ne sont pas critiqués, puisque la classe capitaliste mondiale est dite salariée. Ils ne critiquent pas non plus les classes moyennes indépendantes, puisqu'ils disent qu'ils font partie du prolétariat, et ils ne critiquent pas non plus la classe d'encadrement. Donc au final, on a une absence de critique d'un certain nombre de classes qui sont pourtant essentielles à la domination capitaliste. Et pour finir, la seule fois où il critique les classes moyennes, eh bien, c'est quand il va parler de Nuit Debout, par exemple, en 2016, il va critiquer l'artiste déclassé, enseignant périphérique, etc., et qu'on retrouve dans les fractions de gauche du capital. Alors d'ailleurs, on remarque qu'il critique plus souvent la gauche et l'extrême gauche du capital que la droite et l'extrême droite du capital. Et il parle de Nuit Debout comme une gigantesque masturbation festive des possesseurs de la linguistique aliénatoire. Et il parle de Nuit Debout comme un laboratoire de modernisation du capital, de réagencement de l'aliénation monétaire. Donc on voit que Francis Cousin, en plus de cette critique tronquée de la société de classe, nage en plus dans un gros délire réactionnaire où il voit Nuit Debout comme une gigantesque masturbation festive.
Alors que dans certaines mouvances des Gilets jaunes, il a reconnu le retour de cette gauloiserie réfractaire qu'il appelle de ses voeux. Et il a consacré une longue émission aux Gilets jaunes et il fait partie des récupérateurs d'extrême droite des Gilets jaunes, avec Soral.
Oui, alors que en réalité, si on doit conclure cette émission, en réalité, la pensée de Francis Cousin n'offre pas de piste intéressante pour l'émancipation sociale, même l'émancipation de la société de classe et de la société capitaliste, et encore moins pour tous ceux qui auraient le malheur de ne pas être des hommes blancs, hétérosexuels, de classe moyenne ou petit patron.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.